Moed Altrad, le bédouin pauvre hier, milliardaire aujourd'hui.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
En sol majeur.
Qu'est-ce qu'un bédouin pour un occidental ? Aux yeux du Britannique Laurence d'Arabie, qui a contribué à façonner notre orientalisme, c'est clair. Dans sa vie, le bédouin a de l'air et du vent, des espaces illimités et de grands vides. C'est un peuple dont les intelligences inertes sont incurieuses et en friche. Mais le grand sociologue arabe Ibn Khaldoun n'y a pas été de main morte lui non plus. Qui bédouinise, détruit, disait-il. Dans cet en sol majeur, c'est l'histoire exceptionnelle d'un bédouin né très pauvre en Syrie, devenu le fondateur du groupe Altrad, spécialisé dans les services à l'industrie, présent sur 5 continents, avec 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et environ 60 000 salariés. Cette histoire, qui n'a rien du conte de fées, n'est que le fruit du talent et du dépassement de soi. Surgit d'un horizon ensablé qui aurait pu l'ensevelir, Moed Altrad est un bâtisseur, peut-être amoureux des chiffres, mais aussi des lettres. Grâce à son tout dernier récit paru chez Actes Sud et qui se trouve être sur la liste du Renaudot, Le désert en partage. Bienvenue dans un monde de baklava aux pistaches, de mahmoul aux dattes et de halawet el-jebun. Bonjour Moed Altrad.
Bonjour.
Halawet el-jebun, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, c'est les desserts les plus sucrés. Et puis, un peu de lait, un peu de mélange de tout ça. Et ça donne une recette qui est célèbre dans le désert syrien, en tout cas.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars above in your eyes. A fantabulous night to make romance need the cover of October skies. With all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. Yeah, I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the soft moonlight seems to shine in your blush. My love, can I just make some more romance with you, my love? Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Yet I know now the time is just right, and straight into my arms you will run. And when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. Then I know how much you want me that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Some more romance with you, my love.
Alors avec vous, Moed Altrad sur RFI, on a failli écouter les Bee Gees, Rod Stewart, Léo Ferré, peut-être que ça viendra, Kalthoum, bref, les années 70. Et puis finalement, vous m'avez cité aussi Van Morrison, je me suis dit pourquoi pas. Est-ce que ça veut dire que vous êtes un peu un nostalgique des années 70 ?
Pas vraiment, mais c'est l'année où je suis arrivé en France et j'ai découvert ce monde-là.
Et pourquoi Van Morrison alors, en particulier ?
Il y a deux choses qui m'intéressent chez lui, c'est que la parole, c'est assez poétique, il y a un sens, contrairement à ce qu'on écoute aujourd'hui. Mais il y a également ce côté un peu polyvalent, où on trouve un peu de jazz, un peu de rythme, un peu de... etc., de beaucoup de choses, et ça crée quelque chose qui m'intéresse.
Alors je vous l'apprends, je le crains, mais En sol majeur est une émission où on parle du lien au sol, c'est-à-dire à la terre, qu'elle soit natale, d'accueil ou d'adoption. Est-ce que vous êtes prêt, cher Moed Altrad, à jouer le jeu du portrait ?
Absolument.
Je vous remercie.
« كليت السما وردة ولا وقت اللحيان مع العرش كله ما جي لقمة اللية شربت البحور وجيت متقان من ضميان جميع المشارم ما تجي رشفة اللية سحنت الجبال قوان ولا تفحل البرمان وجميع الشجر ما ميل العين هذه
T comme tribu.
Pour un sol majeur, un petit peu de poème nabati, un petit peu de silhouette de dromadaire sur une ambiance, c'est vrai, orientaliste. Et c'est pour introduire une histoire, celle d'un chef d'entreprise français. Histoire qui prend racine dans le mot tribu. Oui. Quelle était votre tribu première, Moed Altrad ?
Ma tribu première, c'est cette naissance qui est arrivée par un chef de tribu, mon père. Et ma mère, jeune, de 12-13 ans, vous savez, dans le désert, il n'y a pas de lieu où on peut enregistrer la naissance des enfants. Donc on ne connaît pas son âge. Et ce monsieur l'a violé. La tribu bédouine, si vous voulez, c'est ancestral. Le premier bédouin, je crois que c'est Abraham, hein, un des premiers bédouins en tout cas. Il est resté, on est resté jusqu'à aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est la même façon de vivre. Donc moi j'ai vécu dans cette période-là. Ce contexte de la tribu fait que vous devez être quelqu'un, mais bien défini, et vous ne pouvez pas sortir de là. Voyant la mère disparaître, le père m'abandonner complètement, eh bien, j'ai gardé cet espoir très fort de dire « je ne veux pas admettre ». Je ne pouvais pas le dire, parce que ça aurait été fatal pour moi. Lorsque j'entends des choses, je ne suis pas d'accord, je ne dis rien. Parce que dire quelque chose, ben vous disparaissez très vite.
Donc il y a de multiples menaces autour de vous. Ouais. Alors même si Badawi c'est un récit avec des personnages, on peut quand même se faire une idée en vous lisant de l'enfant bédouin que vous avez été, Moed Altrad, pas loin de l'Euphrate, à Assaké, c'est-à-dire à 2 heures de Raqqa en Syrie.
Lorsqu'il était né, sa mère avait à peine 15 ans. Personne n'était allé à son chevet pour la soulager. Nul n'avait consenti à lui tenir compagnie et à nettoyer l'enfant, sans amis ni parenté. Déjà mise à l'écart par les manœuvres de l'autre femme, quand finalement une ombre s'était profilée dans l'entrée de la tente, elle avait cru que son époux venait enfin voir son fils. Faible pour se dresser, elle n'avait plus qu'esquisser un sourire, car c'était bien lui qui se dressait devant elle. Mais il avait l'air absent. Il était accompagné d'hommes au visage tendu. Sans regarder l'enfant, il avait délivré son message. Par 7 fois, il lui avait dit qu'il ne voulait plus d'elle pour épouse. Par 7 fois, il avait lancé une pierre sur la terre battue devant les témoins qu'il avait convoqués. Il avait respecté les règles. Sa mère était répudiée pour toujours, comme cela, sans raison.
Moed Altrad, donc une mère qui accouche à 15 ans, qui est répudiée par son mari comme ça, sans raison, c'est votre histoire. Vous dites, vous le disiez en début de conversation, être née d'un viol, mais... Pourquoi le qualifiez-vous d'un viol, puisque votre mère était l'épouse, non, de votre père ?
Il était déjà marié une première fois, selon les rites de l'islam, et il est tombé sur cette jeune fille, 12-13 ans, et il l'a violée. Et après, il a régularisé la situation. Et c'est là où il l'a répudiée, pour avoir la paix avec sa première femme.
Alors, être le fils d'une femme répudiée, ce n'est pas rien, Mohed, dans la tradition.
C'est une honte. Mon enfance, ma naissance, jusqu'à mon adolescence, ben, j'ai vécu dans la honte. Et d'ailleurs, ce sentiment qui est dicté par les règles ancestrales des Bédouins a fait que la mère a considéré sa fille comme une honteuse qu'elle n'a pas su garder un homme.
La grand-mère.
La mère de ma mère, donc oui, ma grand-mère, justement. Mmh. Et là, j'ai assisté à toutes les scènes pendant des années où tous les matins, elle lui disait « T'es pas belle, tu es incapable de garder un homme. » Beaucoup de choses, je vous laisse imaginer, parce que c'est douloureux quoi, de revivre cette période-là.
Elle fait payer à son petit-fils la répudiation de sa mère à lui et de sa fille à elle. Votre personnage, il s'appelle Maïouf.
Maïouf, oui. Maïouf, c'est, en arabe, c'est l'abandonné, en quelque sorte. Ça m'a plu, ce nom.
Mais vous disiez que c'était le prénom de votre frère dans la vie ?
Oui, dans mon frère dans la vie. Donc il y a une petite confusion volontaire, si vous voulez, entre les deux personnages, le frère et de moi-même.
Ce frère qui a été tué des maltraitances du père.
De maltraitance, parce qu'il a eu la malchance que son père veuille le garder.
Donc vous lui offrez une sorte de sépulture
absolument,
en écrivant ce récit.
Absolument, un souvenir ou un rappel.
Alors ce petit Maïouf, c'est vous hein, aussi, il n'a que des interdits dans sa vie, que des menaces, vous le disiez. Et l'école va se présenter à lui comme une possibilité, mais qui va lui être refusée par la grand-mère. Et évidemment, comme chaque interdit, ça devient un fantasme. La petite école du coin, qui n'est qu'une cahute en torchis, va devenir pour lui un but. Il veut apprendre. C'est un mot magique pour lui.
Oui. Mais vous savez, ce que vous dites, ça a été précédé par une scène hein, qui était inattendue, où le père avait l'habitude de me convoquer quand il voulait, parce que j'habitais chez la grand-mère. J'arrive, j'avais très peur chaque fois de cet homme-là, qui est mon père. Il était grand, gros, chauve. Je rentre dans sa tente, c'est la plus belle tente de la tribu.
C'est un homme riche.
C'est un homme riche, c'est le seul qui avait un camion, vous savez, hérité de l'Union soviétique, parce que la Syrie a été toujours tournée vers l'Union soviétique, jusqu'à là, la Russie. Et puis il y avait un homme qui était là, et il dit à cet homme-là, tu es stérile, tu ne peux pas avoir d'enfant. Ben voilà, il y en a un tout fait, prends-le. Et bien il m'a pris, et je suis parti vivre chez cet homme-là, avec sa femme. Et c'est ça ma chance, parce qu'eux, ils étaient stabilisés, quoi. Ils ne se baladaient pas avec la tribu. Et là où ils étaient, il y avait une école. Et c'est là où j'ai pu aller à l'école. Je suis allé vers un bâtiment qui était fait de torchis avec des trous. Et je voyais à l'intérieur des élèves assis sur des bancs. Et puis il y a un professeur, puis il y a un tableau, et puis il y a des signes. Et ça m'a intrigué. À un certain moment, le professeur, il m'a dit, tu rentres désormais. Je n'osais pas. J'avais un gel là-bas complètement délabré. J'avais pas de crayon, j'avais pas de papier. Il m'a donné des crayons, il m'a donné des papiers et il m'a protégé en quelque sorte. Très vite, si vous voulez, avec cet amour qui est nouveau pour moi, nouveau. Le seul amour que j'avais dans ma vie, c'est ma mère. Ça n'a pas duré longtemps, cet amour-là, parce qu'elle est partie très vite de maladie, de chagrin.
Donc le seul amour, c'est ce maître qui vous félicite. Je reviens à l'histoire de la jalousie.
Absolument. Et donc, si vous voulez, je suis devenu un des maillards de la classe. Et là, ça aiguisait la jalousie et la haine des autres enfants. Et un jour, ils m'attirent vers le désert et ils font un trou, ils m'attrapent et ils mettent la tête en avant. Ils commencent à mettre du sable pour m'ensevelir, en quelque sorte. Là, j'avais cet instinct de la vie ou la haine de l'amour. Et puis, sans le vouloir, il y avait quelque chose ou un message à cette mère de dire « Tu es parti, moi je reste ».
Mais ce traumatisme va devenir un moteur
tout à
pour
fait.
Vous. Vous, tout à fait. Vous serez toujours au-delà des épreuves.
Absolument.
Alors, le début de cette douce ascension, je reviens au petit Badawi que vous étiez, Mohamed Altrad, se poursuit à Raqqa, puisque là-bas, il y a un lycée, c'est le seul lycée du coin, donc vous allez faire votre lycée là-bas. Et à Raqqa, évidemment, tout est différent. Pour ce Maïouf, pour votre personnage qui est seul au monde, mais qui est le roi de la débrouille. Il va se trouver un logement, il va découvrir plus ou moins les filles, un peu le cinéma, la ville, et une justice qui n'a rien à voir à Raqqa avec la justice des Bédouins.
Tout à fait. La justice, si vous voulez, c'est le chef de la tribu qui a tout le pouvoir pénal, le pouvoir civil. Et il n'y a personne qui moufte, comme on dit.
Oui, il y a un pouvoir de vie et de mort.
Absolument, c'est ça. Et ça, c'est effrayant, si vous voulez. Et à Raqqa, il y avait des vrais juges. Il y avait un greffier, il y avait un président de séance, et puis il y avait une sorte de procureur de la République, c'est ça, les tribunaux. Mais il y avait tout ça, mais ils étaient tous corrompus. Donc, C'est une justice légale, mais elle n'est pas légale. C'est voilà. Ça la différence.
L'ascension, en tout cas, elle est en marche pour vous. Vous allez bénéficier d'une bourse d'État pour poursuivre vos études en France. Alors, le choc va être total, je dirais, à votre arrivée en France. Mais en même temps, vous êtes prêt à ce choc, dans la mesure où vous ne vous êtes jamais senti à votre place dans cette Syrie.
J'avais ma place nulle part. C'est ni la Syrie, la Syrie des Bédouins et la Syrie, quoi. Si vous me permettez, c'est l'arrivée en France qui a été douloureuse. Vous savez, c'est en 1970, l'Algérie venait d'avoir son indépendance. Dans le sud de la France, on m'a dit, tu vas à Montpellier, tu vas apprendre le français, tu vas étudier. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé, si vous voulez, vous avez des millions d'ex-Algériens, français et algériens, qui débarquaient dans le sud de la France. Il y avait un sentiment de racisme, de haine, de xénophobie. Et je me trouve là-dedans. On m'appelle algérien. Mais je leur ai dit, mais écoutez, s'il vous plaît, moi je tiens à une chose. Je suis arabe, si vous voulez. J'ai rien contre les Algériens, mais je ne suis pas algérien. Laissez-moi un petit quelque chose de mon identité.
Un petit point final sur votre récit Badawi, Moed Altrad, c'est que ce récit, il a quelque chose de douloureusement merveilleux. Votre Maïouf va apparaître un jour sous un autre nom, Kaher.
Ben, c'est le victorieux Kaher, c'est celui qui a traversé tous les obstacles. Aujourd'hui, c'est ça ce que je suis. J'ai réussi dans l'entrepreneuriat. J'ai été le meilleur entrepreneur au monde. J'ai réussi dans le sport, où j'aide la discipline sportive, notamment le rugby. Je finance l'équipe de France. J'ai un club à Montpellier, qui s'appelle le Montpellier Hero Rugby.
Oui, je ne l'ai pas dit, parce que j'étais sûre que vous le feriez.
Et j'ai un club en Australie, parce qu'on est beaucoup en Australie. Et enfin, je suis le sponsor de la meilleure équipe du monde, qui s'appelle les All Blacks.
Donc, l'abandonné est devenu le victorieux.
Une robe de cuir comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. Cet extra, un maudit blues qui chante la nuit comme un satin de blanc marié. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Des cheveux qui tombent comme le soir et de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, ces mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie. Et puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra. C'est extra, c'est extra, c'est extra.
Un Léo Ferré dans un chœur syrien pour en sol majeur sur RFI. Pourquoi vous l'aimez cette chanson, Moed Altrad ?
C'est le côté du personnage qui est révolutionnaire dans sa façon d'être, mais dans son look, il est particulier.
La crinière léonine.
La crinière, mais la qualité de sa poésie, c'est de la vraie poésie. Donc, et puis là, il parle de jouer les femmes, etc.
Alors c'est juste pour faire le lien avec cette France de 68-69 dans laquelle vous débarquez, Moed Altrad. Vous le disiez un tout petit peu, ça a été un choc, en tout cas négatif par certains points de vue. Et en tout cas, ça vous a posé des questions de comportement, parce que par exemple, vous racontez que vous n'aviez pas, je crois que c'est dans Badawi, votre récit, un de vos récits précédents, vous n'aviez pas l'habitude d'avoir pour professeur une femme.
Oui, oui.
Qui allait vous sommer de sortir de la classe si une réflexion ne lui plaisait pas. Et ça, c'était quelque chose d'incroyable pour vous.
Oui, c'est incroyable. Si vous voulez passer dans le désert, vous n'avez accès à rien. Il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Donc, une morsure de serpent, vous êtes mort. Parce que l'hôpital le plus proche est à 105 km et on n'y arrive jamais. Donc, j'ai grandi dans ce contexte où les femmes dans la tribu étaient voilées et partout, quoi.
Et n'ayant pas leur mot à dire. Hein.
Et ils n'ont pas leur mot à dire, pas d'expression. Tout simplement, elles doivent servir un monsieur. Donc, j'avais pas d'élément d'imagination de dire une femme peut être libre dans son corps, dans son âme et dans son expression vestimentaire, par exemple.
Et oui. peut vous
oui.
commander.
Et absolument. Le lendemain, je sors de là pour chercher où je dois habiter. Et puis, un couple s'embrasse le matin. Ben, c'était une catastrophe pour moi, c'était un choc considérable.
Des comme... déserteur.
Ah, vous aimez les mots, hein, donc on va jouer, puisque vous êtes natif oui. du désert, Moed Altrad. Qu'est-ce que vous pensez de ce mot déserteur?
Ça indique, si vous voulez, quelqu'un qui est quelque part rebelle, qui n'a pas de règles, finalement, outre que ceux dans le Coran, et sous l'autorité d'un seul bonhomme. Donc il est libre et pas libre à la fois, mais ça crée une fragilité, et puis ça le met en danger. Mmh. Et c'est mon histoire.
Votre roman, Le désert en partage, se divise en trois parties, les sables, les braises et le vent.
Oui.
Pourquoi ce choix de trois parties? Qu'est-ce que ça dit?
Ben, le sable, je crois que c'est un rappel de ce qu'on vient de dire, le désert. Mais à un certain moment, si vous voulez, dans mon parcours, plus que vous hissez dans l'échelle sociale, plus que vous êtes visible en quelque sorte, donc comme si vous étiez sur un échafaudage, et vous avez une vision beaucoup plus grande. Et donc vous devenez une cible pour tous les mal intentionnés. On vous fait des procès, on vous colle des casseroles dans votre travail. Mais après, à titre personnel, le fait que vous êtes consacré à cette notion de place, vous cherchez en permanence votre place. Vous êtes toujours précaire, situation instable.
Donc ça, après, c'est les braises.
Ça, c'est les braises. Ensuite, vous avez quoi, finalement? Vous avez un strapontin. Vous ne pouvez pas avoir une place tout de suite. Ça reste un strapontin. Et enfin, vous arrivez à avoir une place. Et vous vous dites, à un certain moment, est-ce que j'ai trouvé vraiment ma place? Là, la réponse est oui, mais avec un petit point d'interrogation. Lorsqu'on me regarde sur Terre, je suis partout, et lorsque j'écris quelque chose, je suis repris par des millions de personnes. Oui. Eh bien, il y a une question en France qui n'existait pas ailleurs. On dit, mais comment il peut réussir? C'est impossible. Vous dites, je suis français, je n'ai plus de passeport syrien. Parce que ce n'est pas possible d'avoir deux passeports en Syrie. Je fais tout pour ce pays, mais malgré tout, il y a un petit point d'interrogation.
Il y a un doute.
Il y a toujours. Un doute, mais il y a toujours la reconnaissance. Vous voyez, je me déplace dans la rue, on m'arrête, y compris à Paris, c'est une grande ville. On prend des selfies, on me dit quelques mots très gentils, je passe un peu de temps, ça me fait du bien, ça leur fait du bien.
Donc avec la France, c'est toujours oui, mais. Et c'est cette histoire que vous racontez, l'histoire d'un homme et de sa construction, donc depuis sa terre natale jusqu'à l'exil, à travers ses rencontres amoureuses, universitaires, professionnelles. Donc ça, c'est l'enjeu hein, de ce roman. C'est une construction toujours en mouvement. Et elle est toujours dans une sorte de jeu d'ombre et de lumière. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Vous pensez avoir réussi, puis finalement, pas complètement.
Oui, vos certitudes, à un certain moment, sur le plan affectif, se trouvent un peu diluées. Et pourquoi? Parce que vous n'êtes pas disponible, justement. Parce que vous avez des choses à prouver côté professionnel. Parce que c'est le seul support qui vous reste pour que vous soyez accepté. Mmh. Autrement dit, il faut se battre pour être français.
Construction du roman un peu éclatée entre différentes temporalités, avec votre alter ego qui s'appelle Riyad, Moued Altrad. On passe de mai 98, par exemple, l'année où votre héros revient dans son désert sans vraiment le reconnaître, à juillet 2015. Là, il est à Jdeïté en Syrie, en plein combat. En passant par janvier 94, où votre personnage est en train de bâtir sa firme. Qu'est-ce que vous permet cette construction, Moued Altrad ?
C'est de créer, si vous voulez, d'abord sur le plan littéraire, de créer un mouvement, vous savez, de l'action, comme me le répète en permanence mon éditeur, parce que le lecteur, j'ai appris dans le roman, c'est un métier, il ne faut pas dire au lecteur ce qu'il doit comprendre, parce qu'il va vous détester.
Novembre 1966.
Père ? Qui c'est celui-là ?
Le père ne s'était pas adressé à lui, mais aux hommes qui l'accompagnaient. Des hommes de la tribu, peut-être même des parents, bien qu'aucun de ces visages ne lui ait été familier.
C'est moi, Riyad.
Il avait volontairement murmuré son nom, un souffle léger, à peine audible, pour que le père ne l'entende pas, pour qu'il passe son chemin.
Celui qui fait ce qu'il veut, tu crois que je ne sais pas ? Qu'est-ce que c'est que ces études ? Pendant que tu perds du temps, tu ne sers à rien, tu n'es qu'une bouche à nourrir. J'ai besoin d'une djellaba neuve.
Il avait dit cela par pure dérision, le père avait grimacé.
Celui-là, je vais l'entraver comme un chameau, croyez-moi.
Les hommes qui accompagnaient le père avaient ri, puis le père lui avait tourné le dos et ils étaient partis.
Août 1992.
C'était à présent l'heure du thé, l'heure de la détente. Aurore avait alors attiré l'attention de Riyad sur un roman de Philippe Roth, La Tâche. L'histoire de Coleman Silk, afro-américain à la peau claire, qui se fait passer pour blond afin d'intégrer la Navy, s'invente juif du New Jersey, rompt avec sa famille, sa mère, sa sœur, son frère, et vit le restant de ses jours dans cette identité d'emprunt à l'intérieur d'une profonde ambiguïté, autre et pourtant plus vraiment lui-même. Aurore voyait-elle en Riyad une trajectoire semblable à celle du personnage ?
Extrait en sol majeur de votre roman Moued Altrad, Le désert en partage, donc avec deux temporalités. J'avais envie qu'on les entende, qu'on les visualise un petit peu avec l'oreille. La première étant cette scène d'humiliation que vous aviez déjà rencontrée dans Badawi. Oui. Vous êtes encore ce petit bédouin qui se retrouve avec une djellaba rapiécée dans tous les sens et qui demande pour une fois de l'aide à son père qui est très riche. De lui offrir donc une nouvelle djellaba, ce qu'il refuse. Donc ça, c'est l'humiliation qui a été formatrice. On ne reviendra pas dessus. Mais le deuxième moment sur lequel on peut s'arrêter, c'est lorsque votre alter ego, donc Riyad, là, on est dans le désert en partage, ce bédouin qui est malmené par sa tribu et son désert, qui est devenu ingénieur, puis entrepreneur, il a beau brasser du temps et de l'argent, il s'intéresse à la littérature. Qui est ce Coleman Silk que vous avez emprunté au roman de Philippe Roth, La Tâche.
Mais si vous voulez, c'est l'alter ego.
Mais en quoi ? En quoi c'est son alter ego ?
Il avait une identité qui était avec des points d'interrogation. Il a ce problème de trouver une légitimité. Il ne l'a jamais trouvé. Et même aujourd'hui, il la trouve parce qu'il y a un passeport, parce qu'il y a une nationalité, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a produites, qui sont acceptées et pas contestées et non contestables, etc. Mais malgré tout, il y a ce doute, ce questionnement. Et ça, ça existe encore, vous voyez. Je suis parfaitement réaliste, je comprends tout ça, mais je ne l'accepte pas. Comprendre n'est pas accepter.
Vous diriez que la littérature a été un allié pour construire votre identité, une identité mobile.
C'est un élément de plus, si vous voulez. Aujourd'hui, je regarde mon trajectoire en tant que Français. Je dois prouver la même chose deux fois plus que les autres.
Même en étant à la tête de ce groupe Altrad.
En étant à la tête de ce groupe.
Quand vous dites deux fois plus, c'est-à-dire ?
Par exemple, les bilans de mes sociétés approuvés par le commissaire aux comptes. Le banquier la regarde deux fois plus. Et avant de vous accorder un crédit, vous voyez son comportement. Dès le départ, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais dans le même temps, si vous voulez, ce groupe, le gouvernement français ou l'État français était actionnaire à hauteur de 20% dans ce groupe. Mais vous croyez que le gouvernement français y prendrait des participations dans ce groupe qui n'est pas transparent ?
Donc la légitimité derrière laquelle vous courez, si j'ose l'image, vous la travaillez à travers ce lien que vous avez noué, créé avec la littérature française notamment.
C'est un élément de plus, il y a l'entrepreneuriat, il y a le fait que je commence à parler français, bien que c'est compliqué, je garde mon accent de départ et je ne fais rien pour le changer parce que je souhaite garder quelque chose de cette identité de départ. Donc j'ai trouvé à travers la littérature, si vous voulez, un support pour deux raisons. La première, c'est que je souhaite prouver quelque chose. J'ai commencé par écrire en économie, j'ai publié 2 livres pour le grand public en économie. Et après, l'écriture en économie, elle est contrainte. Vous ne pouvez pas écrire ce que vous voulez sur la comptabilité, il y a des règles. Mais en littérature, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, que n'importe quel sujet, n'importe quel personnage, mais il y a des règles, et c'est à vous de trouver quelque chose qui rencontre ces lecteurs.
Pour en finir avec cette humiliation première qui prend sa source dans cette identité bédouine, qui est toujours là, fort heureusement, j'ai envie de dire, vous diriez que vous avez été jusqu'à opter pour une assimilation occidentale ?
On peut dire ça, si vous voulez, mais quand même, une assimilation assez avancée, quoi. Je veux pas dénigrer ce pays, c'est le seul pays qui me reste. La Syrie est détruite aujourd'hui. Il y a des initiatives politiques qui cherchent à faire quelque chose, mais j'espère que ça va réussir. Mais c'est quand même mon pays. Je me plains pas, hein. Il faut pas que vous, l'acteur, pensez que je suis en train de me plaindre. Mais je constate quand même dans ce pays, si vous voulez, il y a quand même la xénophobie, il y a le racisme, il y a le rejet. Mais je rassure les Français, la France n'est pas plus raciste qu'ailleurs. Vous comprenez?
Oui. C'est une bonne morale, ça. Et puis, il y a un mot sur cette Syrie qui apparaît dans ce récit Le désert en partage, où une femme aimée qui s'appelle Nour, ce qui veut dire la lumière en arabe, elle se retrouve prise dans les quartiers tenus par l'armée ou par les forces de défense nationale. On est dans la Syrie de 2015, donc après l'explosion de 2011. Cette Nour, cette femme mourante, est-ce que c'est quelque chose de votre Syrie qui meurt à jamais pour vous?
Je pense qu'il y a un message subliminal, si on peut l'appeler comme ça, pompeusement. Il y a ça, si vous voulez. Pourquoi c'est une femme? Parce que je pense qu'il faut valoriser la femme par son courage. Et c'est un message d'amour à travers les femmes et reconnaissance pour les femmes me concernant. Parce que c'est moi qui ai fabriqué le personnage qui n'a jamais réellement existé. Donc c'est un vrai roman, une vraie fiction. Elle était courageuse. Elle n'a pas de chance, elle aussi, de tomber sur un homme qui n'était pas à la hauteur, d'après sa description, donc celle imaginée par l'auteur. Donc c'est tout ça, c'est un message, oui.
Que vous inspire la Syrie post-Bachar, avec ce président par intérim, Ahmed al-Shara?
D'abord, la Syrie d'avant, c'est triste. Moi, j'ai connu une seule famille qui a gouverné le pays pendant un demi-siècle.
La famille Assad?
Je ne connais pas la gouvernance actuelle. Je le suis, vous savez, comme tout le monde ici.
Oui, mais vous n'êtes pas tout le monde. Vous n'avez pas le regard de tout le monde, j'imagine.
Mais justement, j'ajoute une couche, si vous voulez, me concernant, qui consiste à dire ça ne peut pas être pire qu'avant.
En sol majeur.
Un bon filho à casa torna. Un bon fils retourne toujours à la maison. Y a-t-il un proverbe qui gouverne votre existence?
Pour la vie, la phrase, j'en ai pas, mais des notions. Rester humain et j'attache beaucoup à l'humanité. Vous pouvez être très haut dans votre discipline.
Oui.
Mais vous pouvez être rien le lendemain, et je le sais.
Je vais vous en proposer une, moi, de devise, et je vous la pille. Allons, construisons-nous une tour qui touche au ciel et faisons-nous un nom.
Oui, c'est la devise que j'utilise dans ma société pour mes gens. Vous pouvez la lire vous-même, Yasmine.
Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Parce que là, vous faites référence à la tour de Babel.
C'est la tour de Babel. Vous savez, j'espère qu'un jour, vous venez me voir là, dans mes lieux.
Inch'Allah.
Inch'Allah. Et tout ce qu'on fait, c'est une construction. Comme toute construction, elle est fragile. Mais je dis, faisons-en une tour. Et ça, c'est un message, si vous voulez, universel, quelle que soit la culture.
La puissance, qui peut être perçue de façon multiple, hein, c'est quand même quelque chose qui vous a très tôt fasciné.
Oui. Oui, la puissance, oui, ça m'a toujours fasciné, ça me fascine, mais pour passer les obstacles. Je déteste, j'ai pas de rancune contre les hommes, j'ai des rancunes contre la vie. J'ai de revanche pour cette mère, on en a parlé, pour ce père aussi, parce que voilà, c'est le contre-exemple. Vous savez, dans mon contexte journalier, il n'y a pas un jour où vous n'avez pas une mauvaise nouvelle, mais vous en avez aussi des bonnes.
Oui.
Mais c'est la condition de la réussite. La réussite donc, ne se fait pas seule, il faut la payer.
Fasciné par la puissance, mais pas à la sauce Rastignac, alors. Vous n'êtes pas un arriviste, ce qu'on appelle.
Oui, Rastignac ou Crésus, c'est pas mal non plus.
Oui.
Non, je déteste l'argent, mais je peux vous assurer que je le déteste.
C'est vrai ?
Je le déteste, l'argent.
C'est le milliardaire qui dit ça ?
Je ne me considère pas milliardaire, c'est l'entreprise qui est milliardaire. Vous voyez, mais il s'appelle Altra. Donc, mais je ne suis pas dans la misère non plus. Donc, le chef d'entreprise, c'est un message aussi. Quel que soit le chef d'entreprise, quelles que soient ses origines, etc. Ils se trompent. Ils veulent être riches lorsqu'ils font une entreprise. Et moi, j'ai dit, vous trompez. Cherchez la réussite d'abord. Et l'argent, c'est la conséquence.
Alors, il y a la définition de la réussite. Je sais que votre groupe Altrad, je le rappelle, qui est présent sur 5 continents, il a un patron qui n'est pas n'importe quel patron, qui ne dirige pas de la même manière que tous les chefs d'entreprise. Il a une philosophie, ce boss.
De management,
vous voulez dire. Oui.
Ben, vous savez, dans le management, vous avez deux façons de gérer un groupe. La façon qu'on appelle hiérarchisée, vous avez...
Vertical.
Oui, le vertical, le patron intouchable, il faut passer plusieurs barrages, etc. J'ai vraiment du mal avec ça, parce que vous créez des distances entre les hommes, et j'aime pas ça. Donc ça, l'organisation hiérarchisée, et il y a ce qu'on appelle l'organisation matricielle, et là où vous avez une dizaine de couches pour arriver jusqu'au patron, ben vous en avez deux. Donc vous avez une distance extrêmement raccourcie, et ça facilite la communication.
Donc ça veut dire qu'on peut vous parler très facilement, quelqu'un qui est en bas de l'entreprise, il peut rapidement appeler Moed Altrad.
Yasmine, j'ai pas de secrétaire, j'ai pas de directeur de bureau. Tout le monde m'appelle, tout le monde rentre dans mon bureau. Bien sûr, il y a le respect, il regarde si je suis libre ou pas. Donc voilà comment je vis tous les jours.
Alors quelles sont ces valeurs cardinales ?
J'ai choisi 5 valeurs cardinales qui sont le courage, le respect, la solidarité, l'humilité et la convivialité. Ils sont tous des valeurs universelles. Je peux dire ces mêmes mots dans toutes les langues de la Terre et tout le monde chez Altrad comprend.
Oui, dans toutes les langues de la Terre. Peut-être que, oui, mais alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça s'incarne, ça, d'être par exemple solidaire dans votre groupe Altrad ?
J'ai fait beaucoup de recherches à travers les siècles. C'est quoi la solidarité ? Les mots ont changé, c'est le sens. Vous prenez le courage, il n'y a pas si longtemps, c'était d'aller tuer l'adversaire. Mais aujourd'hui, c'est le contraire qu'il faut faire. Il ne faut pas tuer. L'humilité, encore une fois, ne vous fiez pas à votre position très élevée à un moment donné, vous pouvez le regretter demain. Respect, c'est l'élégance de l'âme.
Vous pouvez continuer. Est-ce que vous puisez cette inspiration dans les valeurs bédouines de votre culture première ?
Elles existent, si vous voulez, mais très mal appliquées. Non, parce que tous les jours, dans mon adolescence et dans mon enfance, j'ai vu des gens qui tuent des gens. Pour rien.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
Ah, je me suis demandé, pour un sol majeur, si certains grands hommes avaient inspiré votre parcours si exceptionnel, Moed Altrad. Et à cette question, vous m'avez soufflé en off pour RFI. Le général de Gaulle, donc son appel du 18 juin 1940, c'était au micro de la BBC, son appel à la résistance, autre valeur cardinale, s'il en est. Est-ce que ça parle, ce type de message, cette figure en l'occurrence, est-ce qu'elle parle à l'homme, au citoyen, au boss que vous êtes ?
Vous savez, avant d'arriver en France, vous ne connaissez pas un mot, mais j'ai lu des traductions d'un portrait de général de Gaulle, en arabe. Et cet homme m'a fasciné, parce qu'il était grand, par la taille et par la qualité de l'homme, en quelque sorte. Pourquoi il est grand ? Mais parce qu'il, tout seul, il voulait partir vaincre de la nation nazie. Et je me suis mis à imaginer une France idyllique, oui. Et là, les premiers jours, c'était compliqué, c'était pas ça.
Ouais. Aujourd'hui, vous êtes très très riche, mais pas n'importe quel riche non plus, on l'a un peu compris. Est-ce que vous diriez que la richesse, ça peut être un autre désert ?
Je pense que oui, ça vous donne les moyens, si vous voulez. Dans l'absolu, je ne parle pas spécialement de moi-même. Ça vous donne des moyens de vous distinguer considérablement des autres. Et là, comme on dit, ça gonfle la tête un peu. Et il faut
vous avez éviter. Eu le melon, si j'ose dire
Je ne l'ai jamais eu, justement. J'ai toujours cherché à ne pas l'avoir. Je vis très simplement. C'est vrai que j'ai un avion privé, mais c'est un outil de travail, vous comprenez.
Parce que, pas très voilà. Écolo, mais bon.
Mais oui, il faut trouver le compromis dans tout ça. J'espère qu'on trouvera des moyens pour que ça pollue moins. Donc, je dois gérer 500 sociétés dans le monde, dans tous les continents de la Terre. Et je dois être efficace parce que, justement, je voulais suivre ce parcours, cet exemple que je donne à la France.
Si j'en crois un certain Andrew Carnegie, qui était un mania de l'acier au 19e siècle, théoricien de la philanthropie américaine, dans son livre « L'évangile de la richesse », je ne sais pas si vous l'avez lu, il a cette phrase, il dit « L'homme qui meurt riche, meurt dans la disgrâce. »
C'est mon avis, je suis d'accord avec lui.
Mais avec cette puissance qui est la vôtre aujourd'hui, est-ce que vous souhaiteriez être philanthrope ? Est-ce que vous souhaiteriez soutenir une cause ou une autre ? Il y en a mille et une qui se proposent.
Il y en a partout, et vous avez raison.
Si vous deviez soutenir une seule cause, Moed Altrad, ce serait laquelle ?
Mais je crois que je soutiendrais, je soutiens beaucoup. Déjà, il y a deux fondations. Une fondation pour le rugby, et on aide les gamins des quartiers compliqués, difficiles, en France et ailleurs.
Est-ce que la Syrie, qui est dans ce moment de vie sable mouvant, si vous me permettez l'image, est-ce que ça pourrait être une cause pour vous ?
Ça peut, si vous voulez. Mais aujourd'hui, si je dois faire quelque chose en Syrie, c'est l'économie. Et sans que ça y est pas, la reconstruction de la Syrie, où il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'infrastructure, ni autoroute, ni route, ni hôpitaux, ni école, ni rien. Ça a été valorisé, je crois, quelque chose comme 500 milliards pour reconstruire, pour trouver ce qu'on avait juste avant la guerre civile.
Merci Moed Altrad pour ce parcours, ce désert en partage et cette philosophie en partage. Un petit Oum Kalthoum pour la route.
Oui, Oum Kalthoum, c'est la plus grande chanteuse de l'histoire du monde arabe. Mais j'ai un dicton ou un proverbe ou ce que vous voulez, chouette, enfin. Qui dit que les Arabes n'ont jamais été d'accord entre eux.
Se sont mis d'accord pour ne jamais être d'accord.
Oui, les Arabes n'ont jamais été d'accord entre eux, sauf sur un seul point. Oum Kalthoum.
شتا عينيا ولا حتى ثانية وانت معايا يا صعب عليا لمشت عيني ولا حتى ثانية
Au générique de cet en sol majeur consacré à Moed Altrad, un petit peu de sable, de Rastignac et de valeur cardinale. Et pour réviser votre en sol majeur, je parle au retardataire, un en sol majeur peaufiné cette semaine par David Brocouet, Thibaut Badouali, Yasmine Chouaki. Et bien un petit tour sur notre appli Pure Radio.